Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce mardi d'éthique publique qui est le dernier mardi de l'année universitaire organisé par le département d'éthique publique du Centre Sèvres en partenariat avec la revue Études. Je suis François Hevet, rédacteur en chef de la revue Études et Jean-Luc Poutier est à mes côtés, au moins par le biais de l'électronique. Des élections régionales et départementales, comme vous savez, auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Ces élections ont depuis longtemps perdu leur caractère de scrutin local et surtout actuellement à moins d'un an d'une élection présidentielle. Xavier Bertrand, pour se limiter à cet exemple, candidat déclaré à la présidence de la République, a d'ores et déjà affirmé qu'il se retirait de la compétition s'il n'était pas réélu président de la région des Hauts-de-France. Il serait pourtant compliqué de tirer du vote de 2021 un pronostic pour 2022. La préparation des élections régionales fait apparaître un paysage politique toujours plus décomposé, et il se décompose, on peut dire régulièrement, depuis l'élection surprise d'Emmanuel Macron en 2017. La seule constante prévisible dans ces élections semble être le score élevé du Rassemblement national, face auquel les alliances sont mouvantes. D'abord entre les diverses composantes de la gauche, communistes, insoumis, écologistes, socialistes, mais surtout entre La République en marche, la formation du président, et les autres forces du jeu politique. La République en marche a fait clairement alliance à droite avec les Républicains en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais la même formation a laissé entendre avec plus ou moins de discrétion que dans certaines régions, elle pourrait se désister pour la gauche au second tour afin de faire barrage au Rassemblement national. Par conséquent, le flou règne non seulement pour ce scrutin, mais aussi dans la perspective des présidentielles et des législatives de l'année prochaine. Un autre domaine d'incertitude sont les thèmes de campagne. L'obsession sécuritaire refait surface, en particulier à la suite de plusieurs agressions de policiers. En 2002, on s'en souvient, cette préoccupation avait déjà été l'une des causes de la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Qu'en sera-t-il 20 ans plus tard, en 2022? Et quelles seront les propositions par rapport aux autres sujets d'inquiétude du moment? Il n'en manque pas, comme l'écologie, la crise économique, toujours la question de l'emploi, les inégalités économiques, etc. Pour nous permettre de discerner tous ces enjeux électoraux et politiques, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Antoine Garapon, magistrat et essayiste, secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice, producteur de l'émission Esprit de justice sur France Culture et auteur en particulier du livre Justice digitale avec Jean Lassaigue, paru au PUF en 2018. Le second, qui sera en l'occurrence le premier intervenant, Pascal Perrineau, directeur du Centre de recherche politique de Sciences Po, de 1992 à 2013, professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris. Et son dernier ouvrage, Le populisme, vient de paraître en collection Que sais-je? Et je laisse la parole tout d'abord pour un quart d'heure, 20 minutes, à Pascal Perrineau et ensuite Antoine Garapon prendra le relais. Je les remercie pour leur intervention. Pascal Perrineau, c'est à vous.
Bien, merci beaucoup et merci beaucoup de votre présentation et de votre invitation. Alors, je vais m'efforcer en une vingtaine de minutes, en reprenant d'ailleurs un thème que vous venez d'utiliser, de parler de ce sentiment qui est partagé par l'immense majorité de nos concitoyens quand on regarde attentivement les enquêtes, c'est-à-dire ce sentiment de grand flou, de grande indétermination sociale et politique à une petite année maintenant de la présidentielle de 2022. Alors, pour le politologue que je suis, je vais insister sur le flou politique, mais faut savoir que derrière le flou de l'offre politique, il y a également un flou social et sociétal qui est extrêmement important quand on regarde les enquêtes à dimension plus culturelle, plus sociale, les enquêtes sur les systèmes de valeurs, par exemple. Ce grand flou sur l'offre politique, si on veut chercher d'y voir un peu clair dans ce flou, c'est au fond une tension permanente qui existe maintenant depuis 2017 entre ce que certains présentent comme un vieux clivage, le clivage gauche-droite, clivage biséculaire dans notre vie politique française, et un nouveau clivage que l'on qualifie parfois du clivage entre nationalistes et progressistes, qui est souvent le clivage sur lequel tente d'articuler toute la vie politique, le président Macron tente d'articuler toute la vie politique française en essayant d'inventer une nouvelle bipolarisation qui succéderait à la bipolarisation multiséculaire gauche-droite. Même si, en effet, les catégories de gauche et de droite ont été plus des formes que des contenus, ont été plus des contenants que des contenus. Parce que quand on regarde ça sur la longue période, en effet, ces contenants n'ont cessé de changer quant à leur contenu. Hein, l'idée d'écologie était à droite au 19e, elle est à gauche aujourd'hui. L'idée de nation était à gauche, elle a migré vers la droite, etc. On pourrait comme ça multiplier les exemples. Et donc, la grande tension que l'on connaît aujourd'hui est les régionales, plus que les départementales. Les régionales en sont le symptôme tout à fait immédiat. C'est assiste-t-on à un retour, même partiel, du clivage gauche-droite, comme ça a été le cas, par exemple, aux dernières municipales, ou bien est-ce que l'on est dans le maintien d'un clivage progressiste-nationaliste que nous avons connu à la présidentielle de 2017, parce qu'au fond, le second tour, au-delà des deux personnes qui s'affrontent, n'a rien d'étonnant en 2017. C'est l'expression et l'incarnation de ce nouveau clivage. Et nous l'avons reconnu à nouveau dans le scrutin proportionnel des européennes de 2019, où les deux listes qui arrivent en tête sont bien les deux listes du Rassemblement national et de La République en marche, avec une quasi-marginalisation des listes de gauche et de droite classiques. Et au fond, tout cela n'est que l'expression de ce que moi j'appelle depuis maintenant de très longues années, puisque avec plutôt des géographes d'ailleurs que des politistes, nous avions décelé dès le référendum de 1992 sur Maastricht la puissance d'un nouveau type de clivage entre ce que j'appelais à l'époque la société dite ouverte et la société du recentrage national. Le oui et le non au référendum sur la question européenne sont très organisés par ce clivage et n'ont plus grand-chose à voir avec des logiques de gauche ou de droite. Ça, c'est la première remarque et le premier élément de flou. Le deuxième élément d'indétermination, c'est la structure des motivations des électeurs. Quand on regarde au fond attentivement les enquêtes, qu'on participe, comme je le fais de plus en plus activement, à des groupes d'une vingtaine d'électeurs sur des bases qualitatives, où l'on fait une approche plus qualitative, on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui un mixte de quatre types d'enjeux. Pour les électeurs aujourd'hui, on verra si cela change, quatre types d'enjeux semblent décisifs. Il y a un effet de période, bien sûr, l'enjeu de la santé publique, l'enjeu de la crise sanitaire qui reste très important. On verra s'il a encore cette importance, en particulier à la rentrée, si les indicateurs, comme c'est le cas actuellement, ne cessent de s'améliorer. Mais cet enjeu de santé publique, qui était déjà présent d'ailleurs auparavant, avant la crise sanitaire, les enjeux de santé publique étaient extrêmement importants, et en tant qu'observateur du grand débat national, moi j'avais été frappé à l'époque de voir que l'enjeu de la santé publique était quelque chose d'omniprésent dans les préoccupations des Français qui se sont rendus pendant 2 à 3 mois après la crise des Gilets jaunes dans ces structures de débat. Deuxième type d'enjeu qui est très présent, au même niveau que les enjeux sanitaires aujourd'hui, c'est l'enjeu économique ou socio-économique, qui tourne autour des questions, bien sûr, de l'emploi, du taux de chômage, de la fermeture des TPE et des PME et les questions de pouvoir d'achat, avec en particulier une problématique que l'on sent très bien dans les groupes qualitatifs, qui est la problématique du pouvoir d'achat pour ce que David Goodhart appelle dans un de ses derniers livres les métiers de la main et du cœur. Il y a une attente très forte dans la population française d'une revalorisation du pouvoir d'achat sensible et même peut-être très sensible pour les métiers de la main et du cœur aux dépens de ce que David Goodhart appelle la classe cognitive, qui est considérée, elle, comme étant relativement bien servie et de mieux en mieux servie depuis de longues années. Il y a là quelque chose, un débat pour l'instant relativement silencieux qui me semble, moi, très présent, et il faut s'efforcer d'être sensible à la force des signaux faibles. Troisième enjeu, l'enjeu de l'insécurité. Oui, comme en 2001-2002, l'enjeu de l'insécurité lié à la petite et à la moyenne délinquance reste extrêmement présent dans le discours des électeurs que nous avons interrogés, que nous interrogeons ou que nous consultons dans des réunions consultatives. Alors, il y a un effet contexte hein, auquel il faut être sensible, les attaques répétées contre les forces de l'ordre, en effet, contre des détenteurs de l'autorité publique, ont beaucoup, beaucoup marqué l'opinion. Et donc, il y a un effet de contexte. Mais il y a surtout, quand on écoute les gens sur la longue période, dans des réunions qualitatives qui durent 3 à 4 heures, il y a en fait l'impression pour les Français qu'ils sont dans un contexte de cumul des insécurités. L'insécurité sanitaire, hein, c'est très frappant de voir comment les gens vous disent « mais nous ne nous sentons pas en sécurité hein. ». Et ils convoquent la mort de tel ou tel dans leur réseau familial ou amical. Le nombre de morts cités, vous voyez, nommément, hein, est quelque chose qui, lorsqu'on écoute ces réunions, est tout à fait impressionnant. Le tragique est revenu interpeller les citoyens français. Hein. Et donc, il y a une insécurité sur ce à quoi nous sommes le plus attachés, notre vie et la vie des autres, de ceux que nous chérissons. Deuxièmement, l'insécurité économique, ressentie en particulier au travers des difficultés des jeunes à trouver des stages ou des emplois, même pour les diplômés, dans la période qui vient de s'écouler. Hein. Il y a là un vécu très concret de l'insécurité économique et les gens se disent « ça ne pourra que s'aggraver hein. ». Donc une insécurité économique qui pour la première fois, vous voyez, se cristallise, fait masse avec l'insécurité sanitaire. Et à cela se rajoute une insécurité publique, c'est-à-dire le sentiment, et là c'est l'insécurité publique est vécue comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire, beaucoup d'électeurs disent, écoutez, on est déjà très insécure, on n'a pas besoin, en plus, d'une insécurité publique. Et là, sont convoqués les multiples exemples, toujours de petites et moyennes délinquances. Hein. Quand on quitte les grandes affaires médiatiquement reprises, c'est beaucoup de témoignages sur l'insécurité et l'incivilité. Hein. Dans un dernier groupe, ça me frappait, que nous avons fait dans le nord de la région parisienne, il y a une insécurité, mais phénoménale, féminine plus que masculine, dans des zones très éloignées, dans des communes très calmes, très tranquilles, mais dans des communes très éloignées des lieux de travail, dans lesquelles, en fait, l'insécurité est accumulée dans les migrations pendulaires entre lieux de résidence et lieux de travail. Hein, et ces femmes vous parlent au quotidien d'agressions qui sont des agressions verbales, des agressions de regard, des gestes déplacés, des propos totalement déplacés. Hein, et elles disent, mais ça, c'est notre expérience au quotidien. Hein, et on sent une souffrance accumulée parfois depuis des années qui là est en train de déborder comme si l'insécurité sanitaire et socio-économique rendaient insupportables des choses que l'on supportait plus ou moins bien auparavant. Hein. Donc avec une demande de protection et une demande d'ordre public en particulier, et pour tous les habitants des zones périurbaines, la véritable antienne de celui qui posait problème et que l'on revoit dans les quartiers, que l'on revoit pour la troisième fois, pour la quatrième fois, pour la cinquième fois, pour la sixième fois. Hein? Ça, c'est devenu une véritable antienne déjà des gens habitant en périphérie urbaine. On revoit toujours les mêmes, on sait ce qui nous pose les problèmes et on les revoit sans cesse. Bien. Donc voilà pour le vécu de cet enjeu, hein, qui, c'est vrai, est très élevé. Hein. Pour là, les régionales, moi je suis frappé de voir, alors que vraiment les compétences de la région sont nulles sur la question de la sécurité, que la sécurité, même dans des régions paisibles, comme Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire, arrive en tête des préoccupations des électeurs qui vont aller au régional. Et derrière tout ça, il y a un enjeu que l'on sent monter, que j'appellerais, faute de mieux, l'enjeu identitaire. C'est-à-dire qu'il y a des débats, on le sent très bien dans les groupes de Cali, sur le fond, à l'occasion de cette présidentielle, on doit avoir un débat sur comment faire France aujourd'hui. Comment fait-on France ? Comment fait-on société d'abord, et ensuite communauté politique dans la France de 2022 hein? Et là, vous avez des tas de débats qui tournent bien sûr autour de la laïcité, même si ça paraît extrêmement lié à l'université, mais c'est un symptôme beaucoup plus général, la pénétration de la logique, des logiques communautaires, de la pensée woke, etc. Vous avez énormément de questions qui tournent autour de cela, mais qui sont interprétées par les électeurs de base sur, au fond, on ne sait plus comment faire société. On n'a plus de cap, on n'a plus de modèle de communauté sociale et politique. Comment faire groupe autrement que sous la menace de la pandémie, si vous voulez. Moi, ça me frappe la présence, la puissance de ce questionnement est tout à fait important. Alors, deux ou trois remarques. J'ai l'impression véritablement qu'on est dans une vraie crise de transition. De transition entre deux sociétés. La société bipolarisée gauche-droite qui renvoyait à une bipolarité géographique, la France de gauche, la France de droite, et une bipolarité sociologique, la France des gens d'en bas, comme dirait Raffarin, face à la France des gens du milieu et d'en haut. Et on est en train de découvrir que ce monde qui peut résister, qui continue à exister, cède la place de plus en plus à une nouvelle bipolarité de société ouverte face à une société de recentrage national, avec des alliances sociales nouvelles, une alliance de col blanc et de ce que jadis Giscard appelait le bloc central, contre des alliances de couches populaires, de petits travailleurs indépendants et de classes moyennes inférieures en mobilité descendante. Hein, vous avez là deux ensembles sociaux qui commencent à donner leur cohérence, leur écho social à ce clivage ouvert recentrage national. Avec, au fond, ce que disait assez bien Antonio Gramsci quand il parlait de la crise. Quoi. La crise, c'est quand le vieux meurt et que le neuf hésite à naître. Hein. Et là, nous avons une vieille bipolarité qui est en train de mourir ou de se recomposer, et un nouveau monde qui hésite à naître et qui a beaucoup de mal à naître parce que ceux qui pourraient en être les protagonistes n'ont pas réussi à acquérir une véritable vigueur politique dans la période récente, en particulier du côté du pôle de la société ouverte. Au fond, les deux forces politiques qui sont les plus, comment dire, de manière décomplexée du côté du pôle de la société ouverte, ce sont les Verts et la République en marche. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le flottement de ces deux forces politiques, leur difficulté à s'enraciner dans les territoires est majeure. Donc, ils laissent pour l'instant une place extrêmement importante à ceux qui sont beaucoup plus organisés du côté du pôle du recentrage national, au premier rang desquels, bien sûr, le Rassemblement national et Marine Le Pen. Et je crois que la force actuelle de ce courant doit être interprétée comme cela, hein, avec une capacité non négligeable de perturber les prochaines élections régionales. On le voit de manière, j'allais dire, évidente en PACA, mais il y a d'autres régions qu'il faudra suivre avec attention et où ils sont tout de même très hauts, très hauts. Même des régions où il n'y a pas une sociologie qui leur est particulièrement favorable. Comme si, et je termine par là, indépendamment de ces clivages sociaux et géographiques, d'ailleurs j'ai oublié qu'ils leur donnent du sens, parce que le clivage entre les grandes métropoles vertes et LREM et toutes les autres périphéries, les hinterland, rurbains, ruraux, qui sont eux du camp, beaucoup plus du côté du camp du recentrage national, devient un clivage majeur. Hein, devient un clivage majeur. Avec un ressenti de rupture de la continuité territoriale par les individus qui habitent dans les périphéries. Ça m'avait frappé lorsque j'étais observateur du Grand Débat. Dès qu'on allait dans ces zones, les gens avaient l'impression que celles et ceux qui habitaient les métropoles étaient de véritables étrangers, au même titre que les étrangers de l'autre côté de la frontière. Comme si une véritable frontière s'était établie entre les métropolitains et les autres, et comme si les métropolitains des grandes métropoles universitaires, de col blanc, qui marchent, qui ont un dynamisme économique, étaient plus proches des habitants des autres métropoles britanniques, allemandes ou italiennes. Vous voyez ? Et là, il y a un sentiment presque, vous voyez, de trahison des élites, de trahison des clercs, hein, dont il faut avoir bien conscience, hein, et qui est très exploité aujourd'hui par les forces qui se nourrissent enfin d'un dernier élément qui est le dégagisme. Est-ce qu'au fond, cette élection présidentielle va être l'élection d'un choix électoral ? Choix rétrospectif ou choix prospectif, vous savez, nos amis politologues anglo-saxons parlent de vote rétrospectif et de vote prospectif, mais là il y a un choix. Ou bien est-ce que on va avoir une élection présidentielle qui va être l'élection des grands refus, et où celle qui l'emportera ou celui qui l'emportera sera celui qui sera le moins haï, mais non pas le plus choisi. Et là, vous avez, si vous voulez, une situation très différente de 2017. En 2017, il y avait une femme qui était encore largement haïe, Marine Le Pen. Aujourd'hui, vous avez un président qui, dans beaucoup de milieux, est beaucoup plus haï, rejeté, que ne l'est Marine Le Pen. Hein? Donc, on peut avoir... si vous voulez, une présidentielle marquée par ce dégagisme, par une volonté de renverser la table, et pour une dernière phrase, à l'heure des crises des loyautés, pour reprendre les catégories, vous savez, de l'économiste Albert Hirschman, les stratégies sont au mieux des stratégies d'exit, ou pire, des stratégies de voice, c'est-à-dire des stratégies de protestation. Et on a bien l'expression dans du moins les intentions de vote d'aujourd'hui, dès qu'elles sont mesurées, que l'exit abstentionniste et la voice protestataire l'emportent sur toute autre forme de loyauté électorale durable. Et comme l'REM n'a pas réussi à établir une durabilité de la loyauté, voilà, il faut être attentif à ce que cette indétermination n'accouche pas de quelque chose auquel voilà, on ne s'attend pas complètement.
Merci, grand merci à Pascal Perrineau de cette première intervention très très claire, ce panorama d'une société effectivement en transition où de nombreux enjeux sont présents. Sans plus attendre, je laisse la parole à Antoine Garapon, qui peut-être complétera sur, en particulier autour des questions juridiques, puisque le thème de sécurité est apparu de manière très, très importante. Ce tableau, voilà, je vous laisse la parole. Vous avez je vous redonne le micro. Voilà, principe.
Voilà, est-ce que tout le monde m'entend?
Très bien, parfait.
Bon, et merci beaucoup pour cette invitation, merci beaucoup à Pascal Perrineau pour cette présentation dans laquelle je retrouve beaucoup des thèmes que je vais aborder plus en spécialiste entre guillemets des questions de justice et de sécurité. Alors, nous, ce qui nous frappe, je dirais, d'un point de vue de ce qu'on peut dire de l'insécurité, c'est qu'il s'agit toujours d'un débat piégé. D'un débat piégé parce que trop global, mal posé. Ça ne veut pas dire grand-chose, l'insécurité. Et je vais commencer par en donner quelques éléments pour ensuite arriver au problème de fond. Ça ne veut pas dire grand-chose. D'abord, qu'est-ce qu'on sait des chiffres? On ne sait pas grand-chose des chiffres parce qu'il y a deux sources. Le fameux État 4001 qui est rempli par la police et qui est mal rempli par la police, qui est rempli de manière très politique par la police et qui peut être très très quoi, l'objet a beaucoup de perturbations statistiques et c'est qui montre que l'État 4001, donc c'est l'accumulation de toutes les déclarations faites à la police ou de tous les constats faits par les services de police et de gendarmerie, constate une progression des violences faites aux personnes et une diminution des atteintes aux biens. Alors, la source la plus sérieuse, ce sont les enquêtes de victimation, qui sont des enquêtes beaucoup plus approfondies, faites par des spécialistes de sciences sociales, et qui tendraient à montrer que en fait, l'état de la délinquance semble stable, semble stabilisé, je devrais dire, semble stabilisé. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que, en fait, comme je le disais, ça n'a pas beaucoup de sens de globaliser. De dire la délinquance augmente ou elle descend. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois qu'il y a des gros problèmes. Il y a des gros problèmes de sécurité, mais on voit très bien qu'ils sont. Je prends l'exemple des violences conjugales. Pour moi, travaillant sur les questions de justice, c'est tout à fait singulier et intéressant d'ailleurs qu'on savait bien que le lieu le plus dangereux, celui auquel le lieu où on risquait le plus d'être tué, c'est le lit conjugal. Depuis longtemps, hein, depuis plus d'un siècle, mais ça ne posait de problème à personne. Et aujourd'hui, ça devient un très grand problème, à juste titre, et d'ailleurs, ça fait progresser plutôt les choses. Et je reviendrai notamment sur l'appellation féminicide, c'est-à-dire que cette violence est interprétée et vécue comme une tension entre groupes, entre genres, j'allais dire entre classes. Et non plus comme des faits isolés ou des faits isolables ou des faits singuliers. Donc ça, c'est en soi, c'est intéressant. Alors, on a un immense problème avec le trafic de drogue, immense, dans le sens où on maîtrise plus depuis longtemps. On a perdu la guerre contre la drogue. On cherche à maintenir une pression sur les réseaux, courageusement d'ailleurs, mais c'est extrêmement difficile. Les derniers chiffres que ça fait. Il faut savoir qu'il y a à peu près 250 000 personnes en France qui vivent du trafic de drogue, et qui m'amène à parler. Et alors la drogue est intéressante parce que la drogue, c'est une délinquance qui est on ne peut plus locale et personnelle, et il n'y a pas de famille. En plus, la France est un très gros consommateur de drogue douce, et de médicaments, d'ailleurs, beaucoup plus que nos voisins. À la fois, c'est quelque chose d'extrêmement proche et qui touche au global. C'est-à-dire que ça oblige à coopérer pour démanteler des trafics considérables, faire des arrestations en haute mer avec une collaboration entre la police antimafia italienne et puis la police tunisienne, etc., etc. Donc, on a un très gros problème. Très gros problème de terrorisme qui est pas complètement différent, parce qu'en fait, le deal de drogue peut être une entrée dans la carrière terroriste, mais le terrorisme a beaucoup évolué ces dernières années, depuis l'effondrement de Daesh. On avait un terrorisme qui était semi-structuré, avec par Daesh et par la perspective de la victoire. C'est ça qui était important. C'était, on a une organisation et cette organisation peut gagner. Et quand cette organisation n'a plus pu gagner, qu'elle était sur la défensive, eh bien, il y a eu beaucoup moins de réseaux de départ en Syrie. Mais on a quand même un gros problème de terrorisme. Un problème de terrorisme, et là aussi, on pourra revenir, qui est aujourd'hui un terrorisme absolument imparable. Absolument imparable, où c'est un mixte de pathologies personnelles, d'abandon social, de fougade mystique. C'est extrêmement, extrêmement difficile. Ça réclame peu d'argent. Tous les attentats du 13 novembre ont coûté moins de 100 000 euros, ont coûté un peu moins de 80 000 euros. Bon, alors donc toute la politique de mise en de assécher l'argent du terroriste, enfin bref. Alors, dernier problème, c'est extrêmement localisé. C'est-à-dire qu'il y a des zones de plus en plus, des zones de non-droit. Il y a des cités dans lesquelles la police ne rentre plus, il y a des cités dans lesquelles les agents de la PJJ doivent montrer patte blanche à des sortes de frontières internes pour pouvoir rencontrer des familles. Il y a des formes de délinquance qui font plus que du racket, qui créent des barrières d'octroi aux touristes. Donc on a une configuration spatiale de la délinquance absolument décorrélée, je suis d'accord avec Pascal là-dessus, c'est absolument décorrélée de la perception des gens. C'est-à-dire que les gens vont avoir une perception de la délinquance très forte dans des régions où il n'y a pratiquement pas de ghetto, pas de cité, bon, alors que Paris ou d'autres, même le 93, on a comment on appelle, une sociologie électorale tout à fait particulière. Bon. Mais il y a une dimension géographique. Alors, voilà pour, à mon avis, les grands problèmes que l'on a à traiter. Question, les juges sont-ils laxistes? Est-ce qu'il y a un laxisme de la part des juges? Là encore, la question n'est pas pertinente. Ce qui est certain, c'est que la justice, la magistrature est un corps qui a toujours été faible politiquement. C'est une institution qui est sous-dotée. Et qui doit faire face à des défis absolument monumentaux parce qu'elle doit traiter toute la chaîne. Elle doit traiter les affaires de terrorisme, de coopération internationale, de délinquance multinationale, s'occuper des gens, des gens en déshérence, des mineurs non accompagnés, qui représentent une part considérable de son activité. Et en face à ça, il y a un phénomène qui personnellement m'inquiète, qui est l'incroyable faiblesse sécuritaire du pouvoir politique et sa très grande dépendance à l'égard des syndicats de policiers. C'est-à-dire que l'article 24, c'est les syndicats de police qui ont écrit cet article absurde et qui ne tenait pas la route et qui est inapplicable en plus. Bon. Toute la plupart des lois antiterroristes, c'est des lois dans lesquelles on va faire tout le tour des syndicats et services de police, de quoi vous avez besoin, voilà, on le met dans la loi. Dans leur dernier livre, qui est un bon bouquin d'ailleurs, d'Olivier Filleul et Fabien Jobard, insistent beaucoup sur cette fragilité. Le pouvoir politique ne peut rien refuser aux syndicats policiers, jusqu'à se joindre à une manifestation devant l'Assemblée nationale où le ministre se joint, qui est une manifestation un peu. Et si vous voulez, il n'y a qu'en France que ça existe, qu'on ait des manifestations contre la magistrature, contre la justice. Un peu comme le dernier meeting de Fillon, qui était un meeting contre le PNF et contre les juges. Bon. Alors, ça, c'est des éléments qui sont inquiétants. Alors, est-ce que l'insécurité est un sentiment? Oui, bien sûr, c'est un sentiment d'insécurité, et c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser. Et c'est pour ça que c'est important. C'est pas parce que, et je crois que c'est. Il y a plusieurs, mais Pascal Perrineau l'a déjà dit. Je crois que on sent un malaise, le sentiment d'insécurité, le sentiment d'un malaise beaucoup plus profond. Et on pourrait dire, l'insécurité, c'est à la fois ce qu'il y a de plus profond et de plus superficiel des sujets. C'est ce qu'il y a de plus profond parce que c'est ce qui renvoie directement au pacte politique. Et donc, ce qu'on constate, c'est et c'est peut-être ce qu'il y a de plus préoccupant dans ce que disait Pascal Perrineau, c'est une sorte d'effondrement des médiations symboliques. Et là-dedans, il faut y voir la crainte d'un démantèlement, d'un morcellement du corps politique entre catégories qui se détestent de plus en plus. Le niveau de haine du président actuel m'est apparu démesuré, même y compris celle qu'on portait à De Gaulle. Les Français adorent haïr leur roi, mais là, ça a été quand même un petit peu plus loin. Les revendications, c'est-à-dire que il y a un article un peu polémique disant il y a un risque de guerre de tous contre tous, en reprenant au pied de la lettre ce que disait Hobbes en disant Ius omnium in omnia, tout le monde a le droit à tous les biens. Et sans effort, c'est très 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 présent ça, dans les en prison notamment, un désir de reconnaissance infinie nourrissant un ressentiment insatiable qui font que les crimes, les violences domestiques deviennent des féminicides, deviennent un combat universalisable par la catégorie des hommes contre les femmes. Et je crois qu'il y a un problème des sociétés ouvertes. Les sociétés ouvertes ont de plus en plus de mal à tenir les enjeux sécuritaires. Je vous rappelle qu'en 1960, un match de rugby à Twickenham mobilisait un quart de police. Il y avait un policier à chaque entrée du stade. 20 000 personnes pour un tournoi des Cinq Nations. Nous avons aujourd'hui, on assiste à une violence désymbolisée, aussi bien de la part des revendications sociales et une police qui veut répondre, qui veut se tenir avec des mauvais choix stratégiques. Donc, effectivement, il y a quelque chose de déréglé, de profondément déréglé, qui va dans le sens de ce que disait Pascal et puis le très gros problème de l'islam et de si vous voulez je mets les pieds dans le plat, mais je suis un ardent défenseur des statistiques ethniques. Il faut être entré dans une prison française, assister à une audience correctionnelle d'un tribunal de Marseille ou de Paris ou de la couronne parisienne et maintenant de toutes les villes de France, pour se rendre compte qu'on a un vrai, vrai problème de diversité non dite, qui fait symptôme parce que, et là on est absolument dans ce que disait Pascal sur le fait qu'on est en transition et qu'on n'arrive pas à nommer, à travailler, à construire politiquement quelque chose à partir de cette diversité pour l'instant problématique. Et quand je dis problématique, c'est pas un effet de langage pour ne pas. Je travaille beaucoup sur et avec les terroristes et les djihadistes, des jeunes qui sont suivis dans les programmes où j'apprends énormément de choses sur mon propre pays. Énormément de choses sur mon propre pays et sur ce qui se vit dans les banlieues. Voilà. Alors ça, c'est la dimension profonde de encore une fois, et les réseaux sociaux ont beaucoup fait pour la technologie est un grand dissolvant de médiation symbolique et on voit une progression anormale à mon avis de l'oppositionnel, de la manif, de je suis contre, des corporations aigries et vindicatives et encore une fois confrontationnelles. Alors ensuite, il y a aussi quelque chose de superficiel, c'est que le débat tel qu'il est posé est non seulement insoluble mais quasiment malsain. Je pense, je prends un petit exemple pour pas trop. Je vous disais que je travaille beaucoup sur les prisons et sur le terrorisme et en prison. La réponse, si vous voulez, le débat sur la sécurité pousse à des réponses, à court terme, des grosses évidences à court terme qui n'ont rien d'évident et qui sont d'ailleurs à la longue très très délétères. Les prisons sont des principaux lieux de radicalisation. lorsque la seule politique revendiquée par les syndicats de police, qui encore une fois font la politique pénale, réclament plus de détention et une détention de plus en plus longue et de bon, on peut mais c'est, bon, très bien, on peut monter à 200 000 détenus en France. Il faut savoir que ça va créer des brigades bien formées, bien entraînées, avec un très bon arabe et une organisation beaucoup plus efficace que la pénitentiaire pour demain. On savait que malheureusement Daesh tenait les prisons françaises beaucoup mieux que la pénitentiaire. Elle gérait le rapport interne-externe avec des commandants par étage, avec l'imam, le prêche, son garde du corps, etc., etc. Donc il y a des vrais gros problèmes, et c'est pas les grosses ficelles, les grosses évidences. Il faut faire des camps de rétention pour les radiquer les fichiers, ce qui est une stupidité absolue. Donc oui, il y a des vrais problèmes qui sont des problèmes de fond, qui sont aussi des problèmes de gestion de la sécurité, qui sont par certains côtés très préoccupants d'ailleurs, hein, très préoccupants. Je suis pas du tout, hein, je ne dénie pas du tout ces problèmes que je connais un peu et dont je pourrais parler très très longuement. Voilà, je terminerai en disant je suis très frappé des études qui ont été faites, que Pascal Perrineau connaît bien, sur la sécurisation, des études sur la pourquoi, comment s'est posée la question de la sécurité. Et là on est sur la côté pas superficiel mais réactif du débat sur la sécurité. Un homme politique fait de la sécurité quand il ne peut pas faire autre chose. Ça a été manifeste si on compare le mandat de Sarkozy et de Hollande, et de Macron d'ailleurs. C'est que finalement, Nicolas Sarkozy, quand il ne savait plus quoi faire, quand il n'a plus su quoi faire, il a fait de la sécurité dans le discours, en prenant des décisions qui étaient tout à fait contraires d'ailleurs à sa politique de sécurité, puisqu'il a réduit les forces de police, il a supprimé la police de proximité, ce dont nous payons toujours la facture aujourd'hui, et qu'on pourra pratiquement pas remettre, la suppression des renseignements généraux, la fusion, bref, quoi, un bilan épouvantable. Et alors, ce que montrent les études sur la sécurisation, et je trouve ça très intéressant, parce qu'ils disent, c'est un thème qui naît lorsque la pression de la guerre froide se relâche dans les démocraties occidentales. Et il faut s'adresser... faut que le pouvoir politique s'adresse à sa société autrement que sur un mode adossé à un conflit lui-même adossé à l'apocalypse nucléaire, une sorte de grande division. Bon. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il s'intéresse à la sécurité. Il va formuler toutes les questions, et là je rejoins absolument ce que nous a dit Pascal Perrineau, c'est-à-dire que la sécurisation, on va formuler toutes les questions qui sont des vraies questions politiques, comme comment faire France ensemble, comment trouver un accommodement pour les Français d'origine maghrébine, musulmans ou pas, ça c'est peut-être un peu secondaire, qui représentent autour de 10% de la population. Comment est-ce qu'on va affronter ces périls sécuritaires majeurs liés aux nouvelles technologies, qui sont eux aussi extrêmement préoccupants. Bref, eh bien, on va les formuler en termes sécuritaires. En sécurité alimentaire, en sécurité sanitaire, en sécurité culturelle ou en insécurité culturelle. Extraordinaire ce terme, insécurité culturelle. En sécurité énergétique, en sécurité, etc. etc. Donc, il faut prendre ce problème très, très au sérieux. Il est difficile de bien en parler, il faut bien en parler précisément. Et il faut comprendre que derrière, c'est plus intéressant de savoir ce qu'il y a derrière que de le prendre au premier degré.
Merci beaucoup Antoine Garapon de ce complément à travers un autre angle, mais qui résonne bien avec le propos précédent. Alors, il reste peut-être un petit peu de temps avant de laisser la parole, ou plutôt l'écrit, aux participants. Donc, je vous informe que vous pouvez poser des questions, mais vous ne pouvez le faire que par écrit en utilisant la fonction qui s'appelle soit Converser, soit Chat, selon votre ordinateur. Et vous pouvez donc écrire des questions que nous allons ensuite reprendre. Mais en attendant cela, je ne sais pas si Pascal Perrineau, à qui il donne la possibilité de réactiver son micro, a des réactions par rapport aux propos d'Antoine Garapon ou des compléments.
Non, mais merci beaucoup Antoine Garapon de ce regard qui permet d'aller voir derrière, hein, derrière l'enjeu sécuritaire tel qu'il est structuré, tel qu'il est présenté et tel qu'il sera, j'allais dire à l'œuvre dans les mois et les semaines qui viennent, parce que c'est quelque chose qui fait l'objet en effet d'une appropriation forte. Pourquoi? Par l'opinion. Parce que aussi, si vous voulez, je disais tout à l'heure, crise sanitaire, crise sociale et économique et débat autour de l'insécurité. Crise sanitaire. Les Français se disent, le pouvoir actuel, le président, n'a peut-être pas du moins mis du temps à agir correctement, mais au fond, est-ce que les autres, les oppositions auraient fait mieux? Non. La réponse est non. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, de vote sur enjeu là-dessus, parce que ce ne sont pas des enjeux qui clivent. Sur le social et l'économique, on a un peu la même situation. Les oppositions et les principaux leaders de l'opposition sont considérés, en dépit de l'appréciation mitigée du bilan socio-économique du président, ils ne sont pas crédités d'une capacité à faire beaucoup mieux. Donc, là aussi, grande préoccupation de l'opinion, mais au fond, on ne considère pas aujourd'hui qu'il y a des alternatives crédibles aux politiques menées. Arrivons à l'insécurité. Alors là, ça devient différent. Là, ça devient différent. En effet, parce que certains acteurs sont aujourd'hui, on verra ce qu'il en est demain, considérés comme étant plus crédibles que d'autres sur la gestion de la question sécuritaire. Le président, là-dessus, est faible aujourd'hui. C'est dire pour ça qu'il s'est porté avec la vigueur que l'on sait depuis quelque temps sur cette question. Les leaders de gauche sont considérés aujourd'hui comme étant très pas à la hauteur de l'enjeu, en termes de perçu d'opinion. Hein, attention, en termes de perçu d'opinion. En revanche, la droite est nettement mieux placée, hein, que ce soit les leaders de droite aujourd'hui dont on parle comme éventuel candidat, ou que ce soit Marine Le Pen, qui sur cette question est investie d'une crédibilité relativement forte. Hein. Donc là, attention, vous voyez, on peut avoir un enjeu sanitaire, un enjeu social et économique important, mais qui quelque part n'a pas de débouché politique clair. En revanche, sur la sécurité, les choses sont plus potentiellement conflictuelles et donc peuvent amener des choix, des inflexions de comportement si le thème devenait peu à peu ultra dominant. Hein. Deuxième remarque, en effet, je partage tout à fait ce que Antoine disait tout à l'heure de l'effondrement des médiations et des médiations symboliques. Moi, c'est quelque chose qui me frappe et qui correspond en effet également à une spécificité franco-française, là. C'est-à-dire, nous sommes, par rapport à beaucoup de démocraties parlementaires en Europe, nous sommes un système tout à fait particulier où l'on peut avoir l'impression que l'on a affaire à un espace politique où entre un président très isolé, très jupitérien, investi ou se présentant comme omnipotent, porteur d'une puissance jupitérienne, et j'allais dire les masses électorales, il n'y a presque plus rien. Il n'y a pas de corps intermédiaire. Ce qui tend d'ailleurs à transformer le débat politique français en débat totalement hystérique. Hein, Parce que on a un président qui fait semblant d'être tout puissant face à une opinion éclatée sans aucun corps intermédiaire qui articulerait et ferait le tri entre les demandes, adresse de multiples demandes totalement contradictoires à l'homme qui est en haut du dispositif. Vous voyez, j'allais dire, attention à ce type de débat, c'est potentiellement extrêmement dangereux. Et nous n'avons pas simplement plus de médiation symbolique, mais on a des sociétés qui n'ont plus de corps intermédiaires. Et en France, c'est beaucoup plus prononcé qu'ailleurs. Hein, on vient de faire dans mon laboratoire à Sciences Po pour la première fois une enquête comparative avec l'Italie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et il ne faut pas croire, par exemple, que la crise de la représentation, des représentations, qu'elles soient syndicales, associatives, politiques, institutionnelles, est aussi importante chez nos voisins européens. Pas du tout. En Grande-Bretagne, en Allemagne, les choses vont beaucoup mieux, et même sur certains items, en Italie, les choses vont mieux qu'en France. Hein ? En France, on a véritablement un espace politique qui est complètement désert, et qui est porteur de stratégies et de développement d'affrontements qui peuvent être des affrontements extrêmement violents. Et parfois la violence est symbolique, mais parfois la violence peut être aussi un autre type de violence. On l'a vu, c'est dans cet espace vacant que tout d'un coup a émergé ce mouvement social d'un nouveau type qu'ont été les Gilets jaunes. Et les signes de ce que j'appelle, moi, la gilet jaunisation de la vie politique française sont extrêmement nombreux. Et je suis frappé en ce moment, dans les groupes d'électeurs qualitatifs, qu'on a l'impression que la Covid-19, pendant plus d'un an, a gelé, si vous voulez, les colères, les a refroidis. Et que maintenant, les colères se réchauffent. C'est comme, si vous voulez, des colères qui auraient été lyophilisées et la moindre goutte d'eau chaude va réintroduire un bouillon, hein, va réintroduire la volonté d'en découdre, va réintroduire ce que Jean-Louis Missika appelait il y a quelques années une politisation extrêmement négative, où tous les cultes, disaient, sont sortis. Hein. Et ça, c'est très lié à cette absence particulière et à cet effondrement particulier franco-français des médiations symboliques, institutionnelles et autres.
Oui, si je puis ajouter un mot, ça me frappe beaucoup comparé aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne ou à l'Allemagne qui sont… le Brexit a beaucoup de défauts, mais il a fait que les Anglais ont parlé d'Angleterre pendant 5 ans. Ils n'ont fait que ça. Qui sommes-nous? C'est-à-dire que là, c'est pareil. Alors, ça reste une société divisée. Bon. Aux États-Unis, le bipartisme a tenu. C'est la seule chose qui a tenu, d'ailleurs. Et le bipartisme a tenu. On est dans des pays fédéraux, fédéralisés, comme en Allemagne. Et donc, cette fragilité... C'est ce que je trouve, moi, le côté le plus inquiétant. Et on pourrait ajouter à ce que tu disais, Pascal, parce qu'on a dit que les attentats de 2015 ont eu le même effet réfrigérant sur les malaises de la société française. C'est-à-dire qu'ils ont différé, j'avais lu des analyses à cette époque-là, je ne sais pas ce que ça vaut, en disant les gilets jaunes auraient dû arriver un petit peu en avance, mais ils ont été gelés par 2015.
Les gilets jaunes, d'ailleurs, sont annoncés par les bonnets rouges. Hein. Ça, voilà. Les bonnets rouges, c'est le galop d'essai des gilets jaunes.
C'est ça. Et il y a effectivement une dimension française. Alors là, je suis absolument d'accord, malheureusement.
Bien, merci pour cette première série d'interventions. Donc, merci à Pascal Perrineau et Antoine Garapon. De ces contributions. Nous allons maintenant passer dans une deuxième phase de notre soirée en prenant des questions. Je laisse Jean-Luc Poutier assumer cette phase. Voilà, je vous propose de poser des questions par écrit et peut-être que déjà Jean-Luc en a quelques-unes qui lui viennent à l'esprit.
Pour l'instant, je n'en...